Bonjour et bienvenue à la balado Santé et Société. Je m'appelle Kate Bouchard, je travaille à l'Institut Santé et Société de l'Université du Québec à Montréal. Cette balado est l'occasion de discuter d'enjeux de santé depuis plusieurs points de vue et de faire connaître les expertises de nos membres.
Alors, bonjour à tous et à toutes au balado Santé et Société. Aujourd'hui, on a deux invités qui vont nous parler de la conciliation travail-famille-études, Madame Sylvie Lévesque et Mélanie Lefrançois. Bonjour, mesdames.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là avec nous. Alors, Mélanie Lefrançois, pour une petite introduction, elle est professeure en santé et sécurité du travail au département d'organisation et ressources humaines de l'École des sciences de la gestion à l'UQAM. Elle a mené plusieurs recherches sur la conciliation travail-famille en contexte d'horaires atypiques au sein d'emplois faiblement rémunérés ou à prédominance masculine.
Sylvie Lévesque dirige la Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec, et cette fédération est membre de la Coalition Famille-Travail-Études.
Alors, une question pour Madame Lévesque. En quelques mots, pouvez-vous nous dire qu'est-ce que la Coalition Famille-Travail-Études?
Oui, la coalition a été créée en 2013 à peu près. On regroupe la majorité des organisations syndicales au Québec, CSN, FTQ, SPGQ, en fait, il y a plusieurs représentation syndicale, et des organismes communautaires, des organismes féministes, populaires. Et donc, on est à peu près une vingtaine et 20-25 organismes autour de la table, mais on représente près de 2 millions de femmes et d'hommes là, au niveau de la coalition. Donc, c'est principalement la composition de la coalition actuellement.
En avril 2020, quelques semaines après la déclaration de pandémie mondiale et le confinement du Québec, la coalition dont vous venez de nous parler a lancé un questionnaire dont les réponses ont permis de jeter un éclairage assez concret sur les enjeux de conciliation famille-travail-études au Québec dans le contexte de la COVID-19. Pouvez-vous nous parler un peu des constats, des résultats de cette recherche-là?
Oui, en fait, la coalition, c'est ça, un peu comme tout le monde, on était un peu pris de court avec cette pandémie-là et la coalition a un peu profité de l'occasion, dans le fond, pour justement faire aborder, finalement, interpeller la population, particulièrement les familles, bien sûr, sur tout ce qui entourait la conciliation famille-travail-études. Et après, on est allé chercher près de 600 répondants. Et en fait, au niveau des faits saillants, c'était quand même un questionnaire assez élaboré. Il y avait aussi beaucoup de qualitatifs aussi sur l'état psychologique des gens. C'est sûr qu'on était en début de pandémie. Fait que c'est sûr qu'au mois d'avril, donc, c'était un peu différent. Mais en même temps, vous vous souvenez qu'en mars, le premier ministre avait mis le Québec sur pause. Donc, tout était arrêté, c'est-à-dire pour les familles, les services de garde, les écoles et tout ça. Les parents se retrouvaient chez eux tous les jours, forcés finalement de faire du télétravail, alors que dans la vie de tous les jours, habituellement, on choisit de faire du télétravail, ce qui est différent. Donc, les gens ont beaucoup parlé d'auraient souhaité davantage de souplesse, par exemple, au niveau des horaires, mais aussi au niveau du rendement demandé. Évidemment, tout le monde n'a pas le même type d'emploi. Hein. Vous savez, il y en a qui sont non syndiqués, d'autres ont des emplois un peu plus atypiques, des horaires différents et tout ça. Donc, ce qui fait que quand on est particulièrement, mettons, monoparental, ben, c'est sûr que le défi de la conciliation est beaucoup plus grand quand les écoles et les garderies sont fermées, mais aussi quand on n'a pas des emplois qu'on peut faire du travail de bureau. Il y en a qui devaient aussi aller sur le marché du travail. Puis en plus, on ne pouvait pas, à cette époque-là, demander à nos grands-parents ou nos mères de s'occuper de nos enfants. Donc, tout ce contexte-là a aussi eu des effets énormes dans la détresse psychologique des parents. 82 % des répondants étaient des répondantes, bien sûr. Donc, ça a eu aussi, c'était quand même un questionnaire genré, si on peut dire. Donc, ils demandaient aussi, évidemment, une réduction du temps de travail sans pénalité, à cause justement aussi des moyens technologique, comme on sait, ça a des avantages, mais les désavantages, c'est que les parents se retrouvent souvent le soir, les fins de semaine, à faire le travail qu'ils n'ont pas pu faire le jour parce qu'ils devaient s'occuper des enfants. Et vous savez, comme moi, quand on a un bébé dans les bras, puis qu'on doit faire aussi du Zoom, et etc., c'est pas évident.
Et Madame Lefrançois, est-ce que vous voulez réagir un petit peu à ce que cette recherche-là a dévoilé?
Oui, bien, j'allais rebondir justement sur un premier constat, c'est le genre des répondants et des répondantes. En fait, souvent, quand on le voit dans nos études aussi, quand on va dans les milieux de travail parler de conciliation travail-famille, que ce soit l'accès par le syndicat ou l'employeur, ils ont souvent le réflexe de nous pointer vers les femmes, mais souvent, ce sont les femmes qui participent davantage. comme si la conciliation leur appartenait presque exclusivement, quand pourtant, puis là, je le vois dans les milieux à prédominance masculine, de plus en plus de jeunes pères sont absolument concernés par la conciliation, ont envie de s'investir davantage, mais il demeure qu'on on le voit, donc la conciliation, c'est quelque chose qui interpelle beaucoup, beaucoup les femmes. Le défi aussi, c'est justement d'aller chercher le point de vue des hommes, parce que le changement va opérer quand on va avoir des actions qui peuvent être spécifiques aux femmes et aux hommes aussi. Mais l'autre chose, je pense que c'est sur les demandes qui ressortent, les besoins exprimés dans le questionnaire sur on a besoin d'un accommodement, mais de l'allègement du travail. Puis ça, c'est une discussion qui était déjà difficile à avoir dans les milieux avant la COVID. La COVID a fait juste amplifier les extrêmes auxquels on était déjà exposés. Donc, par exemple, la conciliation, c'est souvent vu comme un enjeu de temps, mais il faut la voir aussi comme un enjeu de charge de travail, de santé physique. Donc, quand on dit, ben oui, on va faire un travail en 4 jours, ben il faut que la charge devienne aussi celle de 4 jours et pas qu'on essaie de coincer 5 jours de travail en 4. Donc, ça vient révéler cet aspect-là pour des emplois qui se sont retrouvés en télétravail contraint. Puis de l'autre côté, bien, la grande, grande précarité de ceux qui se sont retrouvés, eux, sans travail. Puis la conciliation travail-famille, c'est aussi une question de revenus. Puis on le voit dans les conséquences que ça a sur la santé psychologique notamment. Mais quand on se retrouve avec une précarité financière qui compromet notre capacité à rencontrer nos responsabilités familiales, bien, ça met de la pression sur la famille de manière incroyable. Puis c'est ça que la COVID est venue aussi pour certains groupes de travailleurs qui, encore là, avec un reconfinement dans certaines parties, tous les emplois de services dans le tourisme sont très, très, très impactés par la COVID. Donc, voilà, c'est ça la réaction au résultat de cette enquête. Puis il y a une phase 2, hein, Mme oui. Lévesque, qui est en cours, je pense.
Oui, exactement. La coalition, eh bien, évidemment, on s'est dit après un an, bon, on pensait tous et toutes que ça ne durerait pas longtemps, cette histoire-là. Mais finalement, plus d'un an plus tard, bon, on en rit, mais bon, finalement, ce n'est pas si drôle que ça. Mais bon, donc, effectivement, la coalition s'est dit, mais après un an, on veut essayer de voir, sans nécessairement faire des comparaisons, mais essayer de voir est-ce qu'effectivement, il y a où on en est maintenant après cette année-là. Et aussi, on a ajouté des éléments dans notre questionnaire qui étaient aussi un certain nombre de nos revendications à la coalition pour essayer de voir est-ce qu'on peut aussi aller chercher des appuis de la population dans un certain nombre de revendications qu'on a, parce que notre plateforme est assez large, donc elle touche aussi les proches aidants, les parents étudiants, parce que la conciliation famille, travail, études, c'est important de signifier que ça ne touche pas juste les familles, c'est-à-dire maman, papa, les enfants ou deux parents, les enfants, c'est aussi les proches aidants. On l'a vu dans le contexte de la pandémie, comment ça a frappé fort au niveau des proches aidantes. Je tiens à dire féminin parce que c'est encore une fois beaucoup les femmes. C'est qu'avant la pandémie, c'était déjà assez difficile pour les familles de supporter tout ça. Là, on rajoute des éléments qui étaient aussi soit s'occuper de son vieux parent ou des choses comme ça, ou aller le visiter en CHSLD, bon, etc.
Si on revient un petit peu sur les questions de genre qu'on a évoquées plusieurs reprises déjà, l'Association pour la santé publique du Québec et l'Observatoire québécois des inégalités ont publié un rapport à l'automne 2020 qui élucide l'impact de la pandémie sur la santé et la qualité de vie des femmes au Québec. Dans une des sections qui est dédiée spécifiquement à la conciliation travail-famille, on relève entre autres que 41% des mères ont déclaré éprouver de la difficulté à concilier responsabilité familiale et professionnelle contre 34% des pères. Comment est-ce qu'on explique cet écart entre les hommes et les femmes?
Ben, c'est effectivement, c'est pas, nous, on n'a pas tombé en bas de notre chaise, là, dans le sens que c'est pas, malheureusement, c'est encore le cas. Comme on dit, la conciliation famille-travail, c'est encore une affaire de femmes, malheureusement. Même si, effectivement, il y a de plus en plus de pères qui s'occupent quand même, là, il faut quand même le souligner au Québec. On a des avancées là-dessus. Mais il reste, effectivement, que la pandémie a vraiment, vraiment ressorti, exacerbé davantage les impacts sur les femmes. Et encore une fois, ben, il y a déjà des inégalités au niveau des salaires avant la pandémie. Ben, ça n'a pas changé. Puis en même temps, il y a des chiffres assez, moi, qui m'ont fait vraiment dresser les cheveux sur la tête. C'est que la pandémie, il y a eu des femmes, près de 30 000 femmes qui ont perdu leur emploi aussi dans le contexte de la pandémie ou qui se sont réorientées ou qui, même qu'il y en a certaines qui sont retournées à la maison. C'est quand même c'est quand même quelque chose. On a fait quand même 30 ans, 40 ans de féministes au Québec ou pour l'autonomie économique des femmes. Et je ne dis pas qu'on recule, mais en même temps, moi, je me pose de sérieuses questions comment ça a eu ces impacts-là. Donc, encore une fois, est-ce que les hommes, eux, je ne dis pas qu'ils n'ont pas perdu leur emploi, mais il reste que plusieurs ont quand même pu réussir à passer au travers plus facilement que la majorité des femmes, malheureusement. Mm-hmm.
Quand on regarde côté travail, pour rebondir sur ce qu'avance Mme Lévesque, bien, les milieux essentiels qui ont été forcés là, d'être présents au travail pendant la pandémie, qu'on passe à la santé, à l'éducation, le commerce détail en alimentation, c'est des emplois qui sont beaucoup occupés par des femmes et ce sont des emplois avec des horaires atypiques en plus. Puis ces horaires-là qui sont contraints, bien, ils ont un impact sur les conséquences du conflit travail-famille. Là, ça, c'est du côté travail, mais du côté famille, il y a une étude toute récente de Statistique Canada là, qui a été menée dans quelques mois après le début de la pandémie pour regarder, bien, maintenant qu'il y a beaucoup de gens, en fait, des couples qui sont à la maison ensemble en même temps, comment ça se passe du côté du partage des tâches domestiques. Et bien, il y a une petite augmentation là, de l'implication des pères dans le partage des tâches. Les femmes, par exemple, ne sont plus les principales responsables de la lessive, par exemple, mais elles demeurent responsables de certaines des tâches domestiques. Mais une des analyses intéressantes de cette étude-là, c'est que là où les pères s'impliquent un peu davantage, c'est parce que les mères se sont mises à s'investir de façon très poussée sur tout ce qui est éducation à la maison et garde des enfants quand l'école a fermé. Fait que ça a été juste un transfert de temps. Les femmes, ça n'a pas été un rééquilibrage, si on peut dire ça comme ça, mais ça a été juste que les femmes sont devenues très, très prises sur l'aide aux devoirs, l'éducation à domicile pour pallier ce que l'éducation en ligne ne pouvait pas fournir, particulièrement aux primaires et aux secondaires, ceux qui avaient des enfants avec des difficultés. Donc, la curiosité, parce que Statistique Canada aussi vont faire une collecte de données suivie pour voir, bien, est-ce que c'est un accident de parcours causé par la pandémie ou est-ce que ça va laisser des traces permanentes, ce partage des tâches domestiques-là, mais il demeure que ce sont encore les femmes aussi dans la famille qui assument une plus grande partie des tâches domestiques, fait que ça crée une pression supplémentaire.
On a d'autres études aussi qui démontrent que les inégalités de santé liées au travail, si on revient un peu plus sur la thématique du travail, se sont creusées. Par exemple, les travailleurs horaires qui vivent plus de conflits travail-famille, plus de précarité, plus de problèmes de sommeil, plus d'insécurité alimentaire, avaient plus de chances d'avoir des problèmes de santé mentale. Encore une fois, ben, c'est les femmes qui ont subi les conséquences le plus lourdement. Est-ce qu'une meilleure considération pour la conciliation travail-famille-études pourrait contribuer à diminuer les inégalités de santé, selon vous? Vous pouvez les deux répondre, ou une à la suite de l'autre.
Bien, moi, ce que je dirais à ça, c'est que quand on parle d'égalité de santé au niveau, on fait référence aux déterminants sociaux, aux déterminants de la santé, par exemple, la pauvreté, la précarité, on en a parlé tantôt, je pense que tout le monde n'est pas égaux là-dedans, particulièrement les femmes qui se retrouvent dans des conditions, soit à l'aide sociale, au chômage, ou même des étudiantes, parce qu'on n'a pas parlé beaucoup, mais on a parlé aussi des étudiantes qui étaient beaucoup dépressives, puis dans tout ça, là, il y a eu beaucoup ça, mais quand tu es en plus étudiante monoparentale, mettons que ça se rajoute comme un double défi. Donc, les inégalités de santé déterminantes, tout le monde n'est pas à la même place, évidemment. On a vu qu'il y a eu quand même une augmentation importante aussi de gens qui sont allés dans les marques alimentaires. Même les groupes de moissons ont explosé. Il n'y avait même plus de nourriture pour pouvoir. Puis, tu sais, je dis, c'est pas juste les gens qui sont très pauvres. Là, il y a aussi, il y a ça aussi comme considération, même si, bon, c'est sûr qu'au Canada ou au Québec, on a un peu été chanceux d'avoir la PCU, une chance que le gouvernement fédéral a beaucoup supporté, parce que je pense que ça aurait été pire. Mais il reste quand même qu'il y a des considérations à ce niveau-là aussi de la conciliation, parce que quand tu as un travail qui est précaire, c'est de la conciliation famille-travail, bien, si en plus tu es monoparental, tu la fais avec qui? Cette conciliation-là. Et aussi, ton employeur peut dire, ben écoute, il y en a certains, nous autres, qu'on a eu comme commentaire, ben tu as juste amené ton enfant au travail. Surtout des enfants, par exemple, il y avait une mère qui nous a dit qu'il y avait son enfant justement avec des difficultés ou des défis particuliers. Elle ne pouvait pas le faire garder nulle part. Et à ce moment-là, ben, si c'est là que ton employeur a dit, ben amène-le au travail. Ouais, mais tu sais, je veux dire, en même temps, comment tu fais justement pour avec un enfant qui soit à difficulté d'apprentissage ou peu importe. c'est impossible, sinon ben, tu perds ton emploi. Donc, c'est un peu tout ça là, qui fait que ça prend des mesures structurantes. C'est sûr qu'on a vu quand les écoles et les garderies ont été fermées, c'était catastrophique pour les familles. Heureusement que, bon, la deuxième vague et tout ça, le gouvernement a changé d'idée, mais il reste quand même, comme disait Mélanie, qu'il y en a plusieurs qui ont choisi de faire l'école à la maison, mais à quel prix, t'sais? Je pense que les déterminants de la santé, on ne part pas tous à la même place et on l'a vu encore une fois dans la pandémie.
Tout à fait.
Puis une réalité avec les considérations pour la conciliation travail, famille, études, absolument, la réponse est oui, mais en quelque part, dans les milieux de travail aussi, particulièrement, puis là, je vais parler de là où moi, je suis plus à l'aise, où j'ai fait mes travaux, mais en contexte horaire atypique, il y a une forme de fatalité associée au fait qu'il n'y a pas grand-chose à faire et de possible en contexte horaire atypique, parce que c'est la nature du travail qui exige qu'on travaille de soir ou la fin de semaine. Mais il y en a des choses qui sont possibles. C'est juste qu'il faut aller voir comment on peut échanger avec les travailleurs, les travailleuses pour comprendre de quoi ils ont besoin. Et c'est vrai que ces travailleurs-là, souvent, ils assument le type d'horaire qu'ils ont à faire. Et c'est ailleurs qu'on peut aller jouer. Puis c'est souvent sur la question de santé, en fait, de se soucier qu'ils ont des bonnes conditions de travail pour réaliser leur emploi, qu'ils ont du soutien, qu'ils ont l'information, qu'ils connaissent à quoi ils ont droit. S'ils ont le droit, par exemple, à des congés, le minimum des normes du travail pour plusieurs emplois en contexte horaire atypique, ils ne les connaissaient pas, leurs droits minimaux. Fait que cette dimension-là est importante qu'en fait, dans tout type d'emploi, on pense à la conciliation travail, famille, études, et pas juste dans les emplois où les solutions sont plus évidentes. Ben, à l'époque, avant la pandémie, celle où on peut faire un peu de télétravail ou d'ajuster l'horaire de travail, même dans les emplois où les horaires sont rigides, je pense qu'il y a des possibilités. Le défi après, c'est de trouver les solutions. Mettons, si on s'inspire, si on se base des interventions qui se basent sur des données probantes, bien, c'est que c'est difficile de faire des recherches dans ces milieux-là parce qu'on a difficilement accès. Et donc, ça, du côté en recherche, c'est un des défis qu'on vit, mais pour lesquels on travaille très fort, puis les partenariats, bien, avec la coalition notamment, mais aussi avec les centrales syndicales, ont souvent été la porte d'entrée qui nous ont permis d'aller rejoindre les travailleurs et travailleuses. Et ce sont des idées qui peuvent servir après ceux qui ne sont pas syndiqués, qui sont moins protégés aussi. Donc, ça, c'est le défi qui est là. Puis toute la visibilité qu'on a pendant la pandémie là, pour les emplois de l'ombre, nos anges là, à qui on a pensé, bien, j'espère, en tout cas, c'est mon souhait, qu'il reste un peu de cette visibilité-là pour après, parce qu'ils vivaient des problèmes d'horaire et de conciliation avant la pandémie. Là, ça les a amplifiés, mais ils vont être encore là après, quand ça va se terminer. Les horaires ne changeront pas, donc... collectivement, comme société, qu'on continue à s'intéresser à ces travailleurs-là qu'on voit moins, malheureusement.
Puis justement, si on continue dans cette idée du post-pandémie, ou qu'est-ce qui va rester après, est-ce qu'on peut considérer qu'on change un petit peu nos façons de faire? Par exemple, je sais qu'au premier confinement, les épiceries, les autres magasins étaient fermés le dimanche pour donner une pause à tout le monde. On n'y allait juste pas. Puis j'ai l'impression qu'on s'est un peu ajusté. C'est sûr que j'ai pas fait de recherche là-dessus, puis peut-être que ça a impacté beaucoup la vie des gens, mais j'ai l'impression que ça pourrait être un type d'accommodement qu'on pourrait soit maintenir ou soit du moins considérer pour le post-pandémie, justement pour aller dans cette direction-là de conciliation travail-famille. Qu'en pensez-vous?
Ben oui, dans le sens que ça peut être des mesures. On sait qu'en France, ils se sont battus longtemps pour ça, là, que les magasins doivent être fermés, entre autres les épiceries le dimanche pour les plus de famille. Mais en même temps, je pense que nous, on est plus dans des mesures un peu plus costaudes, dans le sens un peu plus structurantes qu'ils vont faire, parce que tout le monde, comme je disais tantôt, n'a pas les mêmes types de conditions de travail. Oui, on peut trouver des solutions comme celle-là, mais en même temps, je pense qu'il faut répondre aux besoins des différents types de besoins des familles au niveau du travail et encore beaucoup de travail à faire, ne serait-ce que les services de garde ne répondent pas non plus. Il y a de plus en plus de parents qui travaillent pas juste de 9 à 5, c'est rendu quasiment moins la norme maintenant, puis les services de garde ne répondent pas à ces besoins-là. Donc, ça c'est vraiment un problème, même si nos services de garde sont positifs, là. Donc, à notre point de vue, oui, il peut y avoir des accommodements, on n'a rien contre, mais le problème qu'on a actuellement, c'est que c'est justement, c'est qu'on y va beaucoup avec des mesures volontaires, des mesures de ce type-là, mais on sait que les employeurs ne sont pas très chauds à l'idée d'avoir des mesures un peu plus mur à mur, mais en même temps, si on n'a pas ces mesures-là, ça ne touche pas tout le monde, puis ça fait en sorte que, encore une fois, c'est ceux qui sont les plus, comment dire, précaires, qui ont moins d'espace pour le faire. Quand Mélanie disait tantôt, justement, qu'il faut offrir ces mesures-là, encore faut-il que les gens sachent qu'il existe des mesures, puis est-ce que les employeurs sont vraiment, je ne veux pas juste dire que les employeurs sont tous des méchants, là, c'est pas ça l'idée, mais est-ce qu'ils ont vraiment une sensibilité et un souci justement pour les mesures qu'ils ont mises en place, que ce ne soit pas juste bon, OK, la pandémie est finie, voilà, on revient à... J'espère qu'il va y avoir des leçons qu'on va tirer, je ne suis pas convaincue, mais souvent on retombe dans nos vieilles habitudes, alors en souhaitant que ça soit positif. Je ne veux pas être si négative que ça, mais il faudra voir aussi est-ce que le gouvernement va mettre les mesures vraiment en place pour pouvoir le faire aussi. Je pense que ça prend des mesures un peu plus... pas juste volontaire, mais des mesures aussi un peu plus structurantes.
Est-ce que ça passerait principalement par la syndicalisation des travailleurs et des travailleuses pour les personnes qui ne sont pas syndiquées, par exemple?
Ben, c'est-à-dire que je pense que ça peut être un moyen. Je pense que c'est oui, c'est pas juste celui-là, mais je pense que oui. Je pense pas qu'on est dans cette ère-là. Actuellement, c'est des batailles qui sont difficiles. On le voit avec la fonction publique actuellement, qu'il y a de la misère à aller chercher même un pourcentage. Tu sais, il y a des négociations, les syndicats vont bientôt tomber en grève. Donc, on n'est pas dans une société qui est très favorable aux syndicats actuellement, je trouve, malheureusement. En même temps, c'est eux autres, socialement, qui ont fait avancer beaucoup des choses au niveau des conditions de travail. Je pense qu'on a un gros travail d'éducation à faire aussi auprès des jeunes dans ce sens-là. Mais les gouvernements non plus ne vont pas beaucoup dans ce sens-là. Mais je pense que ça permet d'aller vers le haut quand on a des avantages syndicaux, parce que sinon, on nivelle par le bas, puis on baisse les salaires. Tu sais, le salaire minimum, là, il est encore en dessous de 15$, là, ça n'a pas de bon sens. Donc, ce qui fait que je pense qu'il faut aussi avoir des propositions plus collectives dans ce sens-là.
Mm-hmm. Puis, mon Dieu, j'ai envie de rebondir en pleine direction, mais parce que là, vous parlez du salaire minimum, mais on a juste pu voir la prime horaire qui était offerte aux travailleurs, par exemple, dans les commerces d'alimentation, un 2$ de plus de l'heure sur le fait qu'ils étaient exposés à davantage de risques et qui a été en quelques mois abandonné finalement, alors qu'on est encore en pandémie. Hein, donc ça, c'est un aspect qui me fait douter. J'espère, moi, je me dis pourquoi pas les horaires. On a développé une habitude de faire notre épicerie à des heures restreintes et ça fonctionnait, on s'est tous nourris. Donc pourquoi pas, mais il y a beaucoup, beaucoup de facteurs en jeu, que ce soit pour les horaires atypiques ou encore, donc il y a des initiatives, par exemple, aux États-Unis pour travailler des meilleurs horaires avec plus de prévisibilité, un droit de refuser ou de demander des accommodements. Donc, on travaille à ce niveau-là. Ce qui se révèle, c'est qu'il faut absolument que toute cette régulation-là s'accompagne d'éducation dans les milieux de travail. Donc, il y a l'aspect syndical, oui, mais sinon, il faut absolument qu'on s'assure que les travailleurs, les travailleuses sachent leurs droits pour qu'ils puissent les réclamer, les renforcer. Et de l'autre, pour des emplois plus conventionnels, mettons 9 à 5, etc., mais avec le télétravail qui va peut-être rester. Il y a des entreprises qui se sont ouvertes, hein, qui a toujours fermé au télétravail. C'est le droit à la déconnexion, donc le droit de ne pas être toujours disponible et d'établir des frontières un temps soit peu étanche entre le travail et la vie privée. Quand on travaille, bien, il se fait à la maison. Donc, ça aussi, c'est d'autres initiatives. Et dans ce cas-là, ce qu'on dit, c'est qu'il faut que ça se négocie, il faut que les travailleurs, les employeurs échangent et décident des manières de faire ensemble. Donc, vraiment, ça passe par un travail de concertation, mais et pas juste des décisions unilatérales qui sont prises, mais bien faire participer les travailleurs, les travailleuses, peu importe l'emploi, peu importe le secteur. Donc, il y a quand même des possibilités qui peuvent arriver, là, pour des gains, mais que ce soit formalisé.
Bien, je vous remercie, mesdames, d'avoir participé aujourd'hui au balado Santé et Société. Sylvie Lévesque, directrice de la Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec, et Mélanie Lefrançois, professeure au département d'organisation et ressources humaines de l'École des sciences de gestion à l'UQAM. Merci encore.
Merci.
Merci beaucoup pour l'invitation.